Seigneur, tu m'as créé, ton sang m'a racheté, par ton amour, je suis libéré. Tu as changé mon cœur, tu as chassé mes peurs, à jamais je louerai ton nom. Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Dieu de paix, mon Seigneur et mon roi, je t'adore, je t'adore. Jésus, tu es vraiment tout pour moi. Je t'adore, Seigneur, et Seigneur, tu m'as créé de tout cœur. Et Seigneur, tu m'as créé, ton sang m'a racheté, par ton amour, je suis libéré. Tu as changé mon cœur, tu as chassé mes peurs, à jamais je louerai ton nom, Seigneur. Je t'adore, je t'adore. Dieu de paix, mon Seigneur et mon roi, je t'adore, je t'adore. Jésus, tu je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Bonjour aux internautes. Voilà, c'est vrai, ils ont aussi le droit à leur bis fraternel. Hein. Donc on se réjouit en tout cas de les accueillir également dans ce lieu via le net. Claude disait tout à l'heure que au niveau des toasts, cela faisait à peu près 3 toasts par personne. Alors ne culpabilisez pas si vous attaquez un 4e toast, sachant que certains en mangent peut-être un peu moins. Donc si vous en mangez que 2, dites à votre voisin, tu as le droit de prendre le 3e que j'ai pas pris, de manière à ce que personne ne sorte culpabilisé de ce lieu. Nous voudrions que ça reste un moment d'échange et de communion fraternelle. Amen. Je voudrais dire 2 choses avant d'apporter la parole que Dieu a mis sur mon cœur. La première, c'est que nous avons également mis des tables à toast dans les différentes écoles et salles des écoles du dimanche. Pourquoi ? D'abord parce que nous souhaitons évidemment enrichir la communion fraternelle des uns avec les autres, mais il y a également un événement aujourd'hui auprès des enfants, c'est qu'il y a un changement de club. Donc vous savez, c'est toujours un petit peu déstabilisant quand un enfant grandit pendant 1 an dans un club et puis doit ensuite changer de club. Alors ce qui est bien, c'est que les enfants, les copains, les copines les suivent, puisque c'est par tranche d'âge. Mais en même temps, j'invite tous les parents ayant des enfants dans les clubs qui sont tranquillement assis et qui, grâce aux différents animateurs qui veillent sur leurs enfants, qui leur rapportent le message de l'Évangile, peuvent écouter l'Évangile. J'aimerais vous demander de passer dans les nouvelles salles où se trouvent, où se trouveront et se trouvent vos enfants dans l'année 2011. Et en même temps, eh bien, allez voir les responsables, les animateurs qui vous accueilleront, qui vous parleront du travail qu'ils feront sur l'année avec vos enfants, mais qui vous parleront également de la possibilité de vous engager dans les écoles du dimanche. C'était pas un piège, hein. Mais nous avons besoin de vous, vraiment. Nous avons besoin de personnes qui s'engagent auprès des enfants, et je suis persuadé que nous découvrirons au milieu de vous, et vous découvrirez en vous des talents que Dieu vous a donnés pour servir les enfants. Alors n'hésitez pas à passer dans les écoles du dimanche, à vous renseigner pour savoir ce que fait votre enfant et à demander eh bien, comment vous pourriez être utile. J'aimerais également vous passer quelques images de l'association qui est l'AFPESF, donc qui est l'Association Familiale Protestante Évangélique Sans Frontières. C'est un nom un petit peu long, mais je voulais un petit peu vous le présenter aujourd'hui. Donc l'AFPESF se tourne dans deux directions, locale et nationale. Alors dans la direction nationale, elle est représentée par l'UNAF, qui est l'Union Nationale des Associations Familiales. Et elle est porte-parole des familles en direction des instances gouvernementales, politiques et sociales. Et puis il y a la représentation locale qui est, elle, représentée par l'UDAF, qui est l'Union départementale des associations familiales. Il nous arrive de siéger dans des séminaires ou des congrès de l'UDAF pour apporter nos ressentiments. J'étais notamment dans une réunion avec, je sais plus si c'était avec Jean-Marie ou pas, mais qui traitait des enfants et des sectes. Donc c'est très intéressant de pouvoir débattre dessus et puis de pouvoir représenter l'Église que nous sommes. Et donc nous sommes représentatifs auprès du département, de la municipalité, des préfectures, mairies, conseil général. Alors bien sûr, plus le nombre de familles seront adhérentes à l'association, plus l'association aura du poids auprès et des instances nationales et des instances locales. C'est pour cela que nous insistons dans cette période de l'année pour que vous remplissiez des feuilles qui vous permettent de devenir membre et de nous donner alors du poids en tant qu'association familiale chrétienne, puisque nous voulons bien sûr représenter nos valeurs et partager notre foi. Adhérer à la FPESF, c'est proclamer publiquement que l'on se reconnaît comme une famille chrétienne. Et on voudrait bien sûr être reconnu, entendu, représenté et défendu auprès de toutes les instances desquelles nous avons parlé tout à l'heure. Les différents travaux de l'AFP, on peut suivre. Trois pôles essentiels, le pôle social, le pôle séjour de vacances et le pôle activité de rue. Le pôle social apporte une aide administrative et je profite pour remercier Dominique et toute l'équipe qui le soutient dans le travail qu'ils font, bourse aux vêtements, aide alimentaire en direction de l'association Aimer Servir Partager avec Philippe qui en est le directeur, soutien scolaire, organisation de conférences, action de prévention, etc. Le pôle séjour de vacances avec ses différentes interventions à travers des camps, des colos, des camps de ski, etc. Bien sûr, l'une des activités se trouvant dans l'AFPESF, c'est l'activité quartier libre. Pour les 6-12 ans, nous réunissons actuellement, en tout cas sur nos listings, plus de 1000 enfants répartis dans 6 quartiers avec une soixantaine d'animateurs. Voilà une petite partie de l'équipe. Nos différents quartiers, Mulhouse, donc à 4 endroits, Mulhouse Intramuros, Camus-Dumas, Matisse, Drouot, Bourg-Suillers, et puis Colmar et Saint-Louis. Nous sommes sortis dans ces différents quartiers hier. Nous sommes également allés dans un des quartiers avec le camion hier matin, avec Quartier Libre Flash. Donc c'est une animation avec toute une équipe de jeunes, et Mylène en l'occurrence, qui veille à ce que tout se déroule bien. Nous avons également Antizone, donc les 12 ans et plus. Hier soir, nous avons accueilli plus de 70 ados ici à l'église, dans la chapelle. Et nous avons fait avec eux une soirée. Alors je vous laisse imaginer combien chercher les ados dans les quartiers pour les emmener ici et ensuite les redéposer devant leur porte et veiller à ce qu'ils rentrent dans leur famille pour que rien ne leur arrive, c'est pas toujours chose simple, mais nous avons besoin de vos prières. Voilà, événement, fête de Noël, où nous avons accueilli beaucoup d'enfants. Je voudrais juste que vous regardiez un instant ce dessin qui est un peu la vision du travail auprès des enfants dans les quartiers. MC4, c'est le sigle de Marc 4, qui est la parabole du semeur. Et voilà un peu le travail que nous faisons dans le haut de l'entonnoir avec nos activités dans les quartiers. Eh bien, nous semons dans un maximum de cœurs d'enfants et de familles, bien sûr ne sachant pas eh bien quelle terre des cœurs sera favorable. Mais nous semons un maximum de la semence de la parole de Dieu pour qu'au milieu, nous puissions ensuite accueillir ceux qui ont quelque peu été déjà touchés au travers d'Antizone, qui savent qui on est. Les soirées Antizone nous permettent également de témoigner, de donner des témoignages, etc. Nous visitons les familles et puis plus bas, vous voyez bien sûr que notre désir au travers de ce travail, c'est d'emmener des familles et des enfants à Jésus. Nous n'avons pas d'autre désir que cela. Et je tiens à le dire, c'est vraiment notre souhait, mais nous passons par le travail du haut pour permettre aux familles d'arriver, eh bien, en bas, en tout cas, quelques familles d'arriver dans la présence de Jésus et de se laisser toucher. Donc voilà. Nous avons également différentes formations. Nous avons démarré sur Reims, Dijon, Paris, Chiltigam, Saint-Dizier, Lille, plusieurs secteurs sur Paris. Voilà. Nous avons des projets de formation. Nous partons en février en Martinique, Guadeloupe. En novembre à Bangui. Et puis en avril 2012 à Haïti. Nous soutenons les œuvres missionnaires au travers du travail que fait Christian avec toute l'équipe. Nous soutenons un ministère qui travaille à plein temps auprès des enfants au Sénégal. Et puis nous avons eu l'occasion également de faire une colo au Sénégal où là nous avons formé des animateurs pour qu'ils puissent reproduire ce travail-là. Voilà une petite Sénégalaise. Et vous pouvez bien sûr nous aider au travers de vos dons, de vos cotisations, des parrainages pour l'écolo, vente de gâteaux, etc. Merci de tout cœur à tous ceux qui nous soutiennent au travers de leurs prières, de leurs dons. À ce sujet-là, bien sûr, encore aujourd'hui, et c'est le dernier jour, eh bien, nous aurons des formulaires pour adhérer à l'association. Vous n'êtes pas obligé de donner quelque chose, mais en tout cas, adhérer pour donner du poids à l'association, à l'accueil, à l'arrière de la salle, mais également dans la chapelle. Voilà le site. Merci à Laurent, merci à Baptiste, à Anthony pour le travail qu'ils ont fait pour que le site puisse s'améliorer. Voilà. Merci à tous. Merci de tout cœur. Mon message ce matin va un peu dans la direction de celui que Sam a eu dimanche dernier, donnant une conduite à l'Église, sauver pour sauver, cela a été rappelé tout à l'heure, et je crois qu'il est important eh bien, que nous ayons le désir d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Nous devons être des lumières pour ceux du dehors. Alors bien sûr, nous devons d'abord être des lumières les uns envers les autres, parce que c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'ils verront que vous êtes ses disciples. Et bien sûr, il faut cultiver cet amour que nous devons avoir les uns envers les autres pour nous permettre de tirer de cet amour l'énergie nécessaire qui nous permettra alors d'être un témoignage vers l'extérieur. Amen. Le titre de mon message, c'est la prière constructive. Ou alors j'aurais pu l'appeler l'intercession constructive. C'est plutôt une prière qui va dans le sens de l'intercession pour les perdus. Vous avez déjà entendu ce terme, faire quelque chose de constructif, n'est-ce pas? J'espère que vous faites quelque chose de constructif. Je pense que à l'occasion de la nouvelle année, nous avons également dit des choses constructives à l'égard des autres. Lorsque nous souhaitons la bonne année à quelqu'un, le but c'est pas de lui dire je te souhaite une année médiocre. J'espère qu'elle se passera mal pour toi. Je pense pas que quelqu'un ait pu dire cela. Nos vœux eh bien, doivent être les meilleurs pour chacun de vous et doivent bien sûr être constructifs. Moi, je me rappelle à l'occasion de la nouvelle année dans notre famille, j'avais eu l'occasion de le dire déjà, mais nous faisions quelque chose qui faisait partie un petit peu des coutumes et qui, me semble-t-il, aujourd'hui, après analyse et constat, eh bien que c'était quelque chose de très peu constructif. Peut-être quelques-uns connaissent cette coutume qui consiste, le soir de Nouvel An, à manger des lentilles. Est-ce que vous connaissez ? En tout cas, dans notre famille, et je sais que ça existait dans d'autres familles, on nous disait que, eh bien, si le 31 au soir, entre minuit et le 1er, vous mangez beaucoup de lentilles, vous serez riche pour l'année à venir. Alors surtout, ne vous précipitez pas sur les plats de lentilles. Alors que faisions-nous ? Entre le 31 et le 1er, eh bien, nous remplissions nos assiettes de lentilles. J'avais d'ailleurs horreur des lentilles. Mais je me suis dit, finalement, si cela pouvait me rendre plus riche, je pouvais bien, pendant un instant, faire un sacrifice. Mais j'ai constaté avec le temps que manger des lentilles ne me rendait pas plus riche. C'est pour cela que je vous invite à ne pas le faire. Mais faites des choses qui sont constructives. Amen. Lorsque nous amenons quelqu'un à l'église, lorsque nous prenons la décision, peut-être en cette nouvelle année, de dire « Seigneur, moi, je voudrais m'engager ». Alors je reste dans les petits engagements. Hein, parce que je me rends compte que dans les grands engagements, souvent c'est... voilà, ça dure un temps, puis ça s'étiole avec le temps. Et puis à la fin de l'année, on se rend compte qu'on est obligé de se repentir parce qu'on n'a pas tenu les engagements de début d'année. Mais si nous pouvions nous dire peut-être, Seigneur, que dans l'année qui vient, tu mettes sur ma route une personne, une, que je puisse gagner, amener à toi, chercher. Alors, je permettrai à ton église de se construire selon ce que dit 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5, ce texte nous dit que lorsqu'une vie vient à l'église, eh bien, c'est une pierre précieuse. C'est une pierre qui permet à l'édifice, l'église, de se construire. Et chaque fois que nous apportons quelqu'un dans l'église par la grâce de Dieu, parce qu'évidemment c'est Dieu qui touche les cœurs, chaque fois alors, nous permettons à l'édifice, l'église, de grandir, de progresser. Et nous faisons alors quelque chose qui est constructif. Mais je voudrais dire ce matin que nous ne pouvons pas construire l'église sans ce temps que nous devons prendre avec le Seigneur. Dans le psaume 127, il est dit, et vous le connaissez tous, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Celui qui bâtit, celui qui construit, s'il construit sans l'Éternel, avec ses propres forces, ses propres moyens, ce qu'il fait, il le fait en vain. » Et voyez-vous, il me semble que plus nous travaillons, plus il y a de travail. En général, quand on vous demande de faire un travail, on a l'impression d'avancer, puisque plus vous travaillez, moins il y a de travail à faire. Mais dans l'église, j'ai vraiment le sentiment que plus nous travaillons, plus on réalise qu'il y a de travail. Et plus alors nous avons besoin, évidemment, d'ouvriers qui se lèvent pour servir, pour travailler. Mais plus également, nous avons besoin de personnes qui se tiennent genoux à terre, qui se placent devant Dieu et qui cherchent sa présence. Je relisais un texte qui est le texte de Néhémie. Et vous savez que Néhémie a fait quelque chose de très constructif. Il a construit la muraille de Jérusalem avec ses collègues, le peuple d'Israël. Mais Néhémie n'a pas que construit un mur physique et visible. Mais je crois que Néhémie, ayant posé chaque pierre, ira prier, chercher la présence de Dieu. Et vous savez que pierre, eh bien, contient les mêmes lettres que prière. Lorsque vous placez le deuxième R ou le premier R de pierre et que vous le mettez devant, vous obtenez prière. Et si vous voulez construire avec des pierres qui bâtiront l'édifice de Dieu, alors vous ne ferez pas l'économie de tant de prières. Et si à chaque pierre et derrière chaque pierre se trouve la prière, cherchez la présence de Dieu, cherchez sa direction, alors vous montrez un édifice selon le cœur de Dieu. Et alors vous pourrez dire, c'est l'Éternel qui bâtit son Église. Quelques clés dans la prière de Néhémie qui lui ont permis de voir eh bien, l'aboutissement de sa construction, qui lui ont permis ensuite d'amener Esdras, qui lui-même a lu des textes de la loi, leur rappelant la loi de l'Éternel. Et ensemble avec le peuple d'Israël, ayant construit le mur de Jérusalem, ils ont adoré l'Éternel. Première clé, réaliser le besoin, les besoins qu'il y a autour de toi. Les réaliser te pousse à prier et à te mettre à genoux. Réaliser les détresses qu'il y a autour de toi te pousse à te mettre à genoux. Verset 2 de Néhémie, chapitre 1, voici ce qu'il est dit. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Néhémie interroge un de ses frères pour savoir ce que devenait le peuple d'Israël à Jérusalem. Et à partir du moment où Néhémie s'est intéressé aux besoins de son peuple, Dieu alors ne l'a plus laissé tranquille. Lorsque nous aimons Jésus, lorsque nous l'avons reçu, lorsque l'Esprit de Dieu vit en nous, alors il tourne nos regards vers ceux et celles qui nous entourent. Alors l'Esprit de Dieu ouvre nos oreilles qui nous permettent alors d'écouter le malheureux qui crie. Il ouvre nos yeux pour voir la détresse qui se trouve autour de nous. Il dirige nos pieds en direction des voies que l'Éternel a tracées pour que là où nous allons envoyer par lui, nous soyons des lumières. Il fait battre nos cœurs pour que nos cœurs battent au rythme de ceux qui souffrent et qui ont besoin de recevoir sa grâce. Oui, c'est ce qui se passe quand nous devenons les temples du Saint-Esprit. Dieu détourne notre regard, peut-être par endroit de notre nombril, pour le tourner en direction des autres. Laissez-moi vous donner quelques témoignages. Vous savez, souvent au début d'année, on fait des best-of. Vous savez ce que c'est un best-of? C'est les meilleurs témoignages ou ce qui vous a marqué en particulier. Quand vous regardez des émissions télévisées, ils font également des bêtisiers. Alors, je ne ferai pas de bêtisier ce matin. Mais j'aimerais juste vous raconter deux ou trois témoignages qui montrent vers quelle direction Dieu a son regard tourné. Certains ont entendu certains de ces témoignages, mais j'aime à les redire. Le premier concerne le témoignage d'une femme vers qui Dieu m'a envoyé un jour. Alors que Christian prêchait, j'étais assis à peu près vers le poteau qui est là, juste derrière. Et puis alors qu'il prêchait, en plein milieu de la prédication, alors que comme un élève studieux, je l'écoutais et je prenais en moi les notes de ce qui était dit, voilà qu'une pensée me vint après la prédication, tu vas à la gare de Mulhouse et tu rencontreras une prostituée. Alors quand cette pensée est venue, bien sûr, je l'ai rejeté au nom de Jésus. Seigneur, ça ne peut pas venir de toi, ça. Et puis, cette pensée a commencé à se faire très insistante. Alors, après la prédication, sans rien en dire à mon épouse, bien sûr, Vous comprendrez pourquoi. D'ailleurs, j'en ai rien dit à personne, parce que je me suis dit, si j'ai l'air ridicule, ce sera juste avec moi-même que j'aurai l'air ridicule. J'ai pris la voiture et je suis allé en direction de l'endroit où elle travaille en général. Et puis voilà qu'en arrivant vers la gare, à 1,5 km, 2 km, une femme sur le trottoir faisait du stop avec l'ourlet de la robe. Une robe un peu raccourcie. Et puis je me suis arrêté et j'ai dit, écoutez, je peux vous conduire quelque part ? Oui, oui, je vais à mon travail. Je dis, mais montez, je vous emmène. Et puis nous commençons à discuter. Il s'avère que cette femme me disait qu'elle était péripatéticienne et qu'elle travaillait à la gare, l'endroit où je devais l'emmener. Et cela m'a donné l'occasion de parler avec elle, de témoigner, d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette femme me dira, eh bien, voyez-vous, j'ai une autre personne que je connais dans l'église qui m'a déjà parlé de Jésus, je sais qu'elle vient chez vous, et je crois en tout cas, eh bien, que Dieu est en train de me chercher. Dieu a son regard tourné vers ces personnes. Nous avons eu une parole de Svetlana tout à l'heure qui disait, mais sortons peut-être de cette mentalité qui, avec le temps, peut devenir quelque peu religieuse. Pour recevoir dans l'Église ou pour chercher en dehors de l'Église ces personnes qui, lorsque nous savons nous mettre à genoux pour elles, sont également des personnes précieuses pour Dieu et que Dieu veut sauver. Et puis le deuxième témoignage, lorsque, il y a plus d'une dizaine d'années de cela, je quittais mon travail dans le supermarché Intermarché dans lequel je travaillais. Quelques jours avant de partir, je dis, Seigneur, ne permets pas que je parte sans que ce village, ou en tout cas les clients de ce magasin, aient pu entendre parler de toi. Et alors, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une occasion. Je ne sais pas comment tu peux faire, mais donne-moi une occasion. C'était à Ensisheim. Et puis un vendredi après-midi, j'avais l'habitude le vendredi entre l'heure, puisque mon temps de pause était court, de ne pas rentrer, mais de m'asseoir juste en face de la prison à Ensisheim. Il y a un cours d'eau avec un banc, je m'asseyais sur ce banc et je lisais la parole de Dieu, je priais. Et alors je vois arriver un homme avec une énorme caméra sur l'épaule, et puis il s'approche de moi. Alors j'étais un peu gêné par cette caméra qui commençait à s'approcher. Et je lui dis, oui, vous désirez ? Il dit, écoutez, est-ce qu'il serait possible que je vous filme puisque nous faisons une émission dans le cadre de France 3 où le thème est « Ce que font les gens auprès des courants d'eau ». Ça tombe bien, il y avait un tout petit ruisseau à peine visible qui coulait à côté. Et puis je dis à ce caméraman, oui, d'accord. J'avais ma Bible en main, et puis quand il a commencé à filmer, je pose la Bible à côté. Non, il me dit, non, prenez ce livre, faites comme si j'étais pas là, c'était difficile en l'occurrence. Et puis il commence à me poser des questions. Que dit ce livre? Pourquoi vous le lisez? Mes amis. Pensez-vous que les gens qui soient en prison derrière vous puissent en sortir? Et puis des questions qui finalement m'ont encouragé à témoigner et à sortir des versets du style Jean 3,16, Jean 14,6, Jésus le chemin, la vérité, la vie. Et puis cet homme m'a remercié, il est reparti. J'ai dit, bon, comme savent très bien le faire les médias, certainement il va couper, rétrécir, recouper, rétrécir pour prendre juste ce qui lui plaisait. Et puis quelques jours après, juste avant de partir, des clients sont venus me voir et me disant, vous avez vu à la télé? Je dis, comment ça? Oui, même que vous avez dit que Jésus était la vie, qu'il fallait l'aimer, que... J'ai dit, Seigneur, mais toi, tu as la capacité de répondre à nos prières au-delà de ce qu'on peut imaginer ou espérer. Pensiez-vous qu'en faisant cette prière, je puisse imaginer que Dieu, près d'un courant d'eau, qui plus est un tout petit courant d'eau, m'envoie un journaliste avec une caméra pour filmer et au travers de cela, répondre à la prière, Seigneur, permets que je puisse encore parler aux habitants de ce village. Amen. Et puis le troisième témoignage que je donnerai, c'est un petit témoignage que je retiens toujours. Bien sûr, il y en aurait beaucoup d'autres. Mais avec mon frère Jean-Jacques, nous étions au début de mon ministère, tout au début, même avant. Nous étions en train d'afficher, j'avais commencé par l'affichage avec des grandes affiches, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nous en collions à profusion. Certains ont même dit c'est de trop, c'est de l'intox. Mais vous savez, quand vous êtes bouillant dans la foi, quand vous êtes bouillant pour parler de Jésus, eh bien vous faites peut-être des fois des choses qui sont maladroites. Je me rappelle un jour, j'étais assis là-bas également. Sam était sur l'estrade. J'en profite, il n'est pas là. Et puis il sort un traité sur lequel il y avait marqué « Plutôt que d'être un architecte construisant des maisons visibles, vous devriez construire en rencontrant Jésus. » Et il avait dit « Mais vous savez, cet architecte m'a téléphoné. » Parce qu'il y avait le numéro de l'église. Et il a un peu râlé de ce mot qui a été mis dans sa boîte aux lettres. Et il disait du haut de l'estrade « C'est vraiment un frère qui a manqué de sagesse. » Et puis en fait, ce frère, c'était moi. Et pendant qu'il parlait, j'étais sur mon siège, je devenais tout petit. Vous savez, vous avez même le sentiment qu'il vous regarde à ce moment-là. Hein. Et puis avec Jean-Jacques, nous avons affiché, et voilà que 20 l'heure de minuit, et nous avions chaque fois prié pour dire « Dieu, envoie des personnes, permets qu'elles soient touchées, sauvées. » Et puis à l'heure de minuit, nous n'avions rencontré personne, et pour cause, je crois qu'il faisait froid. Et voilà que nous affichions la dernière affiche dans un village qui était aux alentours de Mulhouse, un village perdu. Et à minuit, voilà qu'un vieux monsieur, il devait avoir dans les 80 ans, sur son vélo à minuit, dans un petit village. C'est comme le petit courant d'eau, hein. C'est un peu pareil, hein. Voilà que, eh bien, il circule avec son vieux vélo branque-ballant, et puis il s'arrête devant notre affiche. Il commence à la lire. Et il pleure. Et là, avec mon frère, nous avons pu prier pour lui. Et il est reparti avec une Bible. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de cet homme. Je sais qu'il est reparti avec une Bible et qu'il a été touché à minuit, dans le froid, dans un petit village, par le message de l'Évangile. Le regard de Dieu doit être notre regard. Et nous devons réaliser les besoins qu'il y a autour de nous pour pouvoir ensuite recevoir de sa part le désir pour certains de parler peut-être aux gens de mauvaise vie, pour d'autres, aux personnes âgées. Je me suis réjoui d'entendre que les jeunes allaient dans les maisons de personnes âgées, pour d'autres au travers de la radio, d'autres au travers du net et de tous les moyens que Dieu nous donne. D'autres également à leurs collègues de travail, leurs voisins, ceux que Dieu vous donne de rencontrer chaque instant de vos journées. Le deuxième point, c'est la prière fervente dans le secret de ta chambre. Je ne vais pas m'attarder sur cela, j'en avais parlé en développant la prière de Daniel. Mais au chapitre 2, verset 1, il est dit « Au mois de Nissan, la 20e année du roi, Artaxerxès, si vous cherchez un nom pour votre fils, hein, vous en trouvez un. Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Entre le mois de Kisle, où Néhémie a appris l'état du peuple d'Israël, et le mois de Nissan, 4 mois se sont écoulés. Et au bout du 4e mois, il est venu devant le roi avec un air triste. Autrement dit, Et me semble-t-il que dans la période de ces 4 mois, eh bien, Néhémie a mis les genoux par terre et a prié. Et il a prié et prié encore. J'ai été encouragé l'autre jour par mon fils Timothée, 11 ans. Il se lève à 6h15 le matin pour prendre le tram à 7h et partir du quartier ici de Bourcevillers et aller à l'école où il est au Coteau. Et puis un matin, j'entends le réveil sonner à 6h05. Puis il descend, je lui dis « Mais Timothée, pourquoi t'as mis le réveil tellement tôt? Profite, t'avais 20 minutes encore pour dormir. » Et alors il vient et me dit « Papa, je lui dis quoi ?»« Ben, ce matin, j'ai décidé de mettre le réveil à 6h05 parce que je voulais prier. » 11 ans. Quelle leçon. J'ai dit « Seigneur, merci. » Et permet, eh bien, que chaque jour, je puisse entendre son réveil sonner à 6h05. Parce qu'alors, je ne le reprendrai plus pour les 20 minutes qui, me semblait-il, au départ, il perdait les 20 minutes de sommeil. Mais je sais que s'il les prend pour prier, ce n'est pas une perte de temps. Au contraire, il va gagner du temps. Amen. Dieu voit tes larmes dans le secret de ta chambre. Il voit tes prières, tes cris. Il voit tes douleurs. Ne te décourage pas. Surtout, ne te décourage pas. Dieu a la capacité, dans le secret de ta chambre, à te consoler et à venir à ton secours. Je recevais une dame cette semaine, dont je tairai le nom, volontairement, puisque cette femme, de par sa foi, et vit des choses difficiles dans sa famille. Et cette femme avait rendez-vous avec moi au bureau, là, jeudi après-midi. Et lorsque je la reçois, vous savez, il y a certaines personnes, quand vous discutez avec elles, c'est elles qui vous encouragent. Vraiment. Ça fait la deuxième fois que je reçois cette femme au bureau. Qu'est-ce que j'ai été encouragé par sa persévérance, sa capacité à prier, sa capacité à se mettre à genoux. Et puis cette femme me dit, en venant chez toi, j'ai été encouragée. Je dis, mais comment t'as été encouragée? Elle me dit, voilà, dans le tram, j'avais peur de venir. Je me suis dit, mais si quelqu'un me rencontre ou me connaît, ça va être difficile à vivre pour moi. Et elle me dit, voilà, dans le tram, je priais. Et je disais, Seigneur, mais montre-moi que je dois aller à ce rendez-vous. Dis-moi que j'ai raison d'y aller. Et voilà qu'elle reçoit un coup de fil. Et sur le téléphone, un nom, le nom d'un de ses cousins qui lui téléphone très rarement. Et le nom de son cousin était Aïcha, qui veut dire Jésus. Et cette femme lit le message d'Aïcha, son cousin. Et sur ce message, il y avait marqué, je ne sais plus les mots exacts, mais en tout cas, je suis avec toi, je te soutiens. De la part d'un cousin qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, en réponse à une prière qu'elle avait formulée dans le tram, en venant à ce rendez-vous. Dieu a la capacité de t'encourager, de te relever. Troisième point, j'y passe rapidement. La prière de Néhémie était tournée vers la grandeur de Dieu et sa prière était une prière de foi. Dans le contenu de sa prière, Néhémie chapitre 1, verset 5, il est dit « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable ». Il n'est pas dit d'abord que Néhémie s'est mis à geindre ou à pousser des jérémiades en vue de ce que vivait le peuple d'Israël. Mais il est dit dans le départ du contenu de sa prière qu'il a tourné son regard vers un Éternel grand et tout-puissant, vers un Dieu capable d'intervenir. Souvent, j'entends des prières du style « T'as vu mon mari, il m'aide jamais à faire le ménage. » Ou « T'as vu ma femme, sa cuisine. » T'as vu le frère, il m'a même pas dit bonjour aujourd'hui. Quelle prière. Mon ami. Néhémie aurait pu avoir toutes les raisons pour se tourner avant de regarder à son grand Dieu vers les circonstances. Mais Néhémie concentre son regard en direction de ce grand Dieu capable d'agir et de se manifester. Voyez-vous, il me semble des fois que nous sommes capables de regarder le petit point qui se trouve sur un grand drap blanc et de focaliser sur ce petit point, mais de ne pas voir tout ce qui se trouve autour de ce petit point, à savoir ce Dieu grand qui a la capacité de faire disparaître ce petit point qui peut représenter une difficulté. Mardi, il y avait une parole, je vous la rappelle. Elle a été encourageante et elle disait qu'il nous fallait continuer à prier parce que, eh bien, il y avait des combats dans les lieux célestes, mais que la victoire nous était déjà donnée, qu'elle était déjà remportée. Est-ce que nous pouvons saisir par la foi ce message, cette parole qui dit que même si nous devons combattre pour un temps face à des difficultés, la victoire, elle a été obtenue. Quelqu'un disait, la prière de la foi dessine un arc-en-ciel dans le ciel pluvieux de nos difficultés. C'est joli, n'est-ce pas? La prière de la foi dessine un arc-en-ciel dans le ciel pluvieux de nos difficultés. Voyez-vous, la prière du douteur, c'est la prière de celui qui place ses difficultés entre sa prière et Dieu. Mais la prière de la foi, de celui qui croit en les promesses de Dieu, c'est la prière qui met Dieu entre la prière et les difficultés. Et si nous mettons Dieu entre notre prière que nous formulons et nos difficultés, alors nous ne verrons plus nos difficultés d'un même œil. Puis reconnaître sa grandeur, c'est reconnaître également qu'il agit comme il veut et quand il veut. Néhémie ne s'est pas découragé lorsqu'est venue la tribulation face à la construction de la muraille de Jérusalem, mais il a continué malgré cela à mettre sa confiance en Dieu. Puis il y a la prière humble de Néhémie. Néhémie chapitre 1 versets 6 à 7. Que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts, écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et ma maison et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons, il s'inclut dedans. Nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescris à Moïse, ton serviteur. Une prière d'humilité dans laquelle Néhémie reconnaît qu'il n'est pas moins fautif que le peuple d'Israël, pas moins fautif d'avoir murmuré. Nous entendions tout à l'heure une parole face à une personne qui murmurait. Mais est-il possible, avant que l'on murmure contre quelqu'un, de faire un état des lieux de notre propre vie, de considérer ce que nous sommes face non pas aux autres, mais à la sainteté de Dieu, et face à celle-ci, de se dire, mais Seigneur, comme les autres ont compassion de moi, j'aimerais avoir compassion des autres. Comme les autres lèvent sur moi un regard de compassion, j'aimerais moi également avoir compassion des autres. Et puis il y a la prière qui s'appuie sur les promesses de Dieu. Néhémie chapitre 1 verset 8 à 11. Souviens-toi de cette parole, dit Néhémie à l'Éternel, que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance, par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. La prière de Néhémie s'est appuyée sur la parole de Dieu. Néhémie a rappelé à Dieu ce que Dieu lui-même disait. Et je crois, très honnêtement, que la parole de Dieu doit faire partie de ces temps de prière. Claude disait tout à l'heure, en lisant le psaume 103, qu'il lui arrivait de pleurer. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, et qu'elle devient également le fondement de ce temps que nous passons avec Dieu, alors connaissant ses promesses, nous apprenons à les proclamer et à dire, Seigneur, ce que tu dis dans ta parole, tu l'accomplis. C'est une réalité. Et si tout ce que je vis prouve le contraire, je ne m'appuie pas sur ce que je vis, mais je m'appuie par la foi sur ce que dit ta parole. Permettons à la parole de Dieu d'être la source de nos prières. Et je termine en parlant de la prière persévérante. Il est dit dans Néhémie chapitre 1 verset 6, écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment jour et nuit. Néhémie a persévéré pour demander, pour prier, pour chercher la face de Dieu. Et je bénis tous ceux qui le vendredi soir, le mercredi, se réunissent dans ce lieu, Jean-Claude, Claude Christophe, Dominique et d'autres, pour chercher la face de Dieu et la présence de Dieu, et persévèrent, et persévèrent, et persévèrent encore, jusqu'à voir l'accomplissement de Dieu. Je ne suis pas très doué en latin, en grec, en araméen, en hébreu, mais je bénis le Seigneur hein, pour tous ceux qui sont doués, qui s'y connaissent, c'est super enrichissant. Mais j'ai décomposé le mot persévérance. Et je l'ai décomposé en trois. La fin du mot persévérance, le mot termine par errance. Et je pense qu'aucun d'entre nous ne souhaiterait que sa prière erre dans les lieux célestes sans trouver personne pour la saisir, la prendre, et que celle-ci alors trouve une réponse. Vous savez, quand on dit de quelqu'un qui erre, s'il est là, c'est quelqu'un qui a l'air un peu, vous savez, erré, c'est une connotation triste, une connotation un peu de solitude. Et puis le début du mot, c'est père. Lorsque nous prions et que nous rencontrons dans notre prière un père qui nous aime et qui sait ce qu'il y a de meilleur pour nous, alors nous pouvons croire que ce père qui nous aime prendra soin de nous et entendra nos prières. Je ne dis pas qu'il dira toujours oui. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'une des réponses de ce père qui sait ce qui est bon pour nous peut également être non. Ou peut également être plus tard. Et le milieu du mot persévérance, entre père et errance, c'est la sève. Et vous savez que la sève, le mot littéraire de sève, c'est donner la vie, donner de la force. Et je crois que nous avons besoin, dans nos prières, lorsque nous rencontrons le Père, de voir notre prière ne pas errer dans le cosmos, mais recevoir la vie du Père en elle, et permettre alors que cette vie s'installe dans nos demandes, dans nos prières, dans nos requêtes, dans nos intercessions. Et que nous puissions alors par la persévérance, Seigneur, je crois que je viens devant un Père. Je crois que tu sais ce qu'il y a de bon pour moi et tu vas mettre de la vie dans ma prière. Tu vas mettre de la vie dans ma prière et peut-être que certains sont là et vos prières sont sans vie.
Et vous avez l'impression que vos prières sont devenues des prières faites par tradition, des mots répétitifs dans lesquels il n'y a plus de vie. Persévérez, mais persévérez à venir devant un Père qui veut mettre de la vie dans vos prières et permettre alors à vos prières de faire quelque chose de constructif. Insistez, persévérez. J'aime la prière d'Abraham, Genèse chapitre 18. Lorsque Dieu dira, ferai-je connaître ma volonté à Abraham? Oui, l'ami de Dieu, c'était Abraham, nous l'avons chanté tout à l'heure. Et Dieu voulait qu'Abraham connaisse sa volonté. En l'occurrence, dans ces textes, la volonté de Dieu était de détruire Sodome et Gomorre. Sa volonté était arrêtée. Dieu avait décidé de détruire ce pays. Abraham n'est pas venu devant Dieu en disant « Seigneur, puisque tu as décidé que ta volonté se fasse, ou bien ?» Abraham est venu devant son Dieu, en l'occurrence les deux hommes qui étaient là, et il leur dira « Mais si vous trouvez 50 justes, si seulement il y a 50 justes dans cette ville, est-ce que pour ces 50 justes la ville sera sauvée ?» Oui, Dieu a changé d'avis. Oui, pour ces 50 justes, je sauverai la ville. Dieu, permets-moi encore de te parler. 45 justes. Allez, Seigneur, si on a 5 en moins que 50, 45, est-ce que tu sauveras la ville? Oui, je le ferai. Seigneur, je t'embête encore une fois. Si on a que 30, Seigneur, si on a que 30, oui, je la sauverai. Et si on n'a que 20, Seigneur, je la sauverai. Et Seigneur, et si par hasard t'en trouvais que 10, est-ce que tu la sauverais? Oui, je la sauverai. Ça s'appelle une prière persévérante. Et vous savez ce que je crois? Ça m'engage. Vous savez ce que je crois? Je crois que quand Dieu a pris une décision pour une ville, pour un quartier, pour une prostituée ou un grand-père. Je crois que si vous vous tenez devant lui avec persévérance, alors même si Dieu a pris une décision, parce qu'il voit votre persévérance, parce qu'il voit l'amour, la compassion des âmes, Dieu va lui-même pouvoir changer d'avis et intervenir pour les personnes qui, au préalable, devaient être détruites à cause du péché. Je le crois de tout mon cœur. Et c'est pour cela qu'avec nos équipes, nous prions pour ces quartiers. Je vois des fois des enfants, lorsque je les regarde, je dis, mais Seigneur, ses yeux, quand ils me regardent, sont tellement vides. C'est tellement creux à l'intérieur de lui. Si les yeux sont le miroir de l'âme, alors Seigneur, l'âme de cet enfant est tellement détruite que je crois qu'il n'y a plus rien à faire pour lui, mais je veux me mettre à genoux pour lui. Hier, nous avions les ados derrière. Et puis, j'avais appris que durant la fête de Noël, on nous avait volé un jeune garçon. Nous avions volé la marionnette des policiers que nous avions payé 80 euros pour la revendre à 10 euros dans son quartier. Et puis, il nous avait volé des bracelets sur lesquels on avait marqué « Tu es précieux » pour les revendre dans le tram à 1 euro et c'est parti comme des petits pains. Dit Seigneur, au moins, il a pu s'enrichir d'une mauvaise manière. Et puis hier soir, nous reparlions à ces jeunes de tout cela, mettant des règles en place, et c'est juste de mettre des règles. Et puis nous avons attrapé un jeune qui a volé une manette de jeu, oui, lors de la soirée. Bien sûr, ce jeune a été repris. Mais dans mon cœur, quand je regardais ce jeune, faisant partie d'une famille de toxicomanes, n'ayant pas de mère, ayant un frère plus ou moins chef de gang dans le quartier des Coteaux, j'ai dit, Seigneur, ce jeune a tellement besoin de toi. Et si tout montre de manière très naturelle que ce jeune part en direction, dans une mauvaise direction, bien je veux par la foi persévérer pour que ce jeune ne reste pas dans l'errance d'une vie détruite, mais que les prières trouvent la vie d'un père qui veut l'adopter et le recevoir. Amen. Pouvons-nous fermer les yeux un instant? Peut-être demander un ou deux musiciens de monter et préparer un dernier chant. Merci beaucoup. Seigneur, je suis avec ton peuple devant toi. Et si j'ai été sauvé, c'est pour sauver. Si nous avons été sauvés, c'est pour sauver. Comment est-il possible de garder enfermée en nous la bonne nouvelle de ta parole? Et ce que nous pouvons faire de constructif, c'est de permettre à des pierres précieuses pour toi se rajouter dans ce lieu afin de construire l'édifice, ton église. Nous sommes sauvés pour sauver. Seigneur, nous sommes sauvés pour sauver. Mais lorsque le découragement vient, Jésus, nous venons devant toi ce matin. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous te remercions pour toutes ces précieuses vies que dans l'Église tu as gagnées. Te remercions pour ces précieux internautes que tu as gagnés. Mais Seigneur, nous voulons nous placer devant toi. Et nous savons que pour chaque pierre précieuse, il y a des temps de prière dans lesquels, avec foi, réalisant ta grandeur, dans lesquels, avec persévérance, nous voulons te demander, sauve encore, touche encore, guéris encore, libère encore. Père, que l'année qui est devant nous soit un temps de grâce. Et que l'Église avec un grand E, soit cette lumière qui éclaire les ténèbres. Qui éclaire ceux qui ont mal et qui souffrent. Qui donne de la vie là où ne se trouvent plus que les ténèbres. Fais de nous une église, des hommes et des femmes prêts à payer le prix. Trouveras-tu quelqu'un qui se trouve à la brèche? Trouveras-tu quelqu'un? N'est-ce pas à chacun de nous que tu parles en disant cela? N'est-ce pas à moi en premier que tu parles en disant cela? Seigneur, que ton église soit une église qui prie et qui intercède avec persévérance, consciente de ta grandeur et de ta force. Et je te prie pour toutes les familles de mes bien-aimés qui ne t'ont pas encore rencontré et trouvé. Certains peut-être ont-ils baissé les bras. Seigneur, non, ne veux pas baisser les bras, mais les lever comme Moïse, Aaron, eurent levé les bras vers toi. Et voyez alors Josué vaincre l'ennemi. Ainsi, parce que la victoire a déjà été accomplie, nous gardons les bras levés vers toi. Remplis nos cœurs de ta présence et que dans l'année qui est devant nous, nous reprenions chacun et chacune le chemin de la prière et de l'intercession. Père, nous te le demandons dans ta grâce. Levons-nous ensemble.
Tu me connais. Si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte que tu